Le tribunal des ombres.
Chaque nuit, Messire de Nogaret, chevalier, légiste et garde des sceaux, travaillait fort tard en son cabinet, comme il l'avait fait toute sa vie. Et chaque matin, la comtesse d'Artois apprenait que son ennemi avait été vu en parfaite santé, semblait-il, en se rendant et d'un bon pied, ses portefeuilles sous le bras, à l'hôtel du roi. La comtesse posait alors un regard lourd sur sa demoiselle de Parage. « Patientez, madame. » Une grosse, cela fait 12 douzaines, à raison de 2 douzaines la semaine. Mais la patience n'était pas le fort de Mao, qui commençait à prendre très petite opinion des vertus mortifères du serpent de Pharaon. À savoir seulement si la chandelle empoisonnée était bien allée chez son destinataire, et s'il n'y avait pas eu échange ou erreur, ou si quelque valet n'avait pas laissé choir précisément cette chandelle-là. Pour être certain de réussir, il eût fallu pouvoir la planter soi-même dans le candélabre. « La langue ne peut pas se tromper, madame, » assurait Béatrice. Mao croyait peu à la sorcellerie. « Coûteuse manigance pour piètre résultat. D'abord un bon poison, décrétait-elle, s'administre par la bouche et non par fumée. » Néanmoins, lorsque Béatrice lui portait son bougeoir le soir, elle ne manquait pas de lui demander avec un peu d'inquiétude « Ce ne sont point des chandelles à légiste. » « Mais non, madame, » répondait Béatrice. Or, un matin de la fin mai, Nogaret, contrairement à ses habitudes, arriva en retard au conseil. Il pénétra dans la salle alors que déjà le roi était assis. Nogaret s'inclina très bas en offrant ses excuses. Ce faisant, un vertige le saisit et il dut se rattraper à la table. La plus urgente affaire était l'élection papale. Le siège pontifical était vacant maintenant depuis 4 semaines et les cardinaux réunis en conclave à Carpentras, selon les instructions dernières de Clément VII, se livraient à un combat qui ne paraissait pas près de finir. On connaissait fort bien la position et la pensée du roi de France. Philippe le Bel voulait que la papauté restât en Avignon, là où il l'avait installée, à portée de sa main. Il voulait que le pape, si possible, fût français. Il voulait que l'énorme organisation politique que constituait l'Église ne pût jouer, comme elle l'avait fait souvent, contre le royaume. Les 23 cardinaux assemblés à Carpentras, et qui venaient de partout, d'Italie, de France, d'Espagne, de Sicile, d'Allemagne, étaient déchirés en presque autant de camps qu'il y avait de chapeaux. Les disputes théologiques, les rivalités d'intérêts, les rancunes de famille alimentaient leur lutte. Chez les cardinaux italiens surtout, entre les Caetani, les Colonna, les Orsini, existaient des haines inexpiables. « Ces 8 cardinaux italiens, » dit Marini, « ne sont accordés que dans leur volonté de ramener à Rome la papauté. Par bonheur, ils ne le sont sur le nom d'aucun papable. »« Cet accord peut se faire avec le temps, » remarqua Monseigneur de Valois. « C'est pourquoi il ne faut point leur en donner, » répondit Marini. Nogaret sentit à ce moment comme une nausée qui lui alourdissait l'estomac et gênait sa respiration. Il voulut se redresser sur son siège et il éprouva de la difficulté pour commander à ses muscles. Puis, son malaise disparut. Il respira largement et s'essuya le front. « Rome est la ville du pape pour tous les chrétiens, » dit Charles de Valois. « Le centre du monde est à Rome !» Chose qui convient aux Italiens sans doute, mais non au roi de France, dit Marini. « Vous ne pouvez tout de même pas refaire l'œuvre des siècles, messire Enguerrand, et empêcher que le trône de Saint-Pierre ne soit là où il l'a fondé. Mais quand le pape veut se tenir à Rome, il ne peut y rester, » s'écria Marini. « Il est forcé de fuir devant les factions qui déchirent la ville et doit s'aller réfugier dans quelque château sous la protection de troupes qui ne lui appartiennent point. Il se trouve beaucoup mieux veillé par notre bonne forteresse de Villeneuve, de l'autre côté du Rhône. « Le pape demeurera en son établissement d'Avignon, » dit le roi. « Je connais bien Francesco Caetani, » reprit Charles de Valois. « C'est un homme de grand savoir et de grand mérite sur qui je puis avoir de l'influence. »« Je ne souhaite point ce Caetani, » dit le roi. « Il est de la famille de Boniface et reprendrait les errements de la bulle Unam Sanctam. » Philippe de Poitiers, penchant son long buste, montra qu'il approuvait pleinement son père. « Je pense qu'il y a dans cette affaire, » dit-il, « assez d'intrigues pour qu'elles s'anéantissent l'une l'autre. » À nous d'être les plus tenaces et les plus fermes. » Après un instant de silence, Philippe le Bel se tourna vers Nogaret. Celui-ci, le visage très pâle, respirait avec peine. « Votre conseil, Nogaret ?»«
Oui, sire, »
dit le garde des Sceaux avec effort. Il passa une main tremblante sur son front.
« Veuillez me pardonner, c'est cette lourde chaleur. »«
Mais il ne fait pas chaud, » dit Hugues de Bouville. Nogaret, à grand effort, prononça d'une voix lointaine
« L'intérêt du royaume et celui de la foi commandent d'agir en ce sens. »
Puis il se tut. On s'étonna qu'il eût parlé si peu et pour exprimer une pensée si vague. « Votre conseil, Marigny ?»«
Je proposerais, sire, compris prétexte de ramener en Guyenne les restes du pape Clément, selon la volonté qu'il en a montrée, pour aller presser un peu le conclave. » Mais sire de Nogaret pourrait être chargé de cette pieuse mission, nanti des pouvoirs nécessaires, et accompagné d'une bonne escorte, armée comme il convient. L'escorte garantira les pouvoirs.